Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Marion Maréchal.
Bonjour Marion Maréchal.
Bonjour.
Cela faisait un petit moment que vous aviez déserté la scène médiatique. Vous revenez avec un nouveau centre de réflexion que vous avez lancé hier. Et vous avez la ferme intention de participer au débat, à tous les sujets d'actualité. Cela ne manque pas. Tiens d'ailleurs, hier soir, est-ce que vous soutenez les joueurs de foot du PSG de l'Istanbul Başakşehir qui ont, et c'est une première, quitté le terrain pour un propos raciste de la part d'un arbitre ?
Alors, je vais déjà vous répondre sur le cap, si vous permettez, puisque c'est l'objet de mon invitation. Mais en effet, il y a 3 ans de cela, j'ai lancé une école de sciences politiques et de management.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller au-delà de la formation et de pouvoir aller sur le terrain du débat public et porter un certain nombre de solutions et de propositions qui, aujourd'hui, me semblent absentes du débat public dans un espace intellectuel que je trouve sous-investi, si je puis dire, en particulier dans le milieu universitaire qui est le nôtre et le milieu de la recherche, qui pourrait se résumer autour de la question du souverainisme, de l'identité, de la sécurité, bien sûr, de la question de la puissance. Et donc, je trouve qu'il y a là-dessus un sujet absolument fondamental à porter. Pour ce qui est de votre question...
Je dis juste le cap, centre... Vous avez dit le cap...
Centre d'analyse et de prospective, voilà. En effet. Voilà. Donc, une forme... Évidemment, le nom n'est pas anodin, puisqu'il s'agit, je l'espère, de pouvoir dégager une forme de ligne directrice pour la France de 2030, d'une certaine manière.
Et donc, est-ce que vous soutenez les joueurs de foot ?
Alors, je n'ai pas du tout suivi cette actualité, donc je vais avoir du mal à vous donner un avis ne suivant pas du tout le foot, par ailleurs. Bah, j'en suis désolée.
Il y a un des arbitres qui a prononcé le mot « négro » et cela a provoqué le départ.
S'il y a eu une réaction, évidemment, la réaction est légitime. Il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire, qui ne pourrait pas être en accord avec ça ?
Mais vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose en ce moment qui dépasse ce mouvement venu des États-Unis, Black Lives Matter, de dénoncer... toute action raciste.
Je trouve qu'il y a une forme de mécanique de l'émotion orchestrée par des activistes politiques d'extrême gauche ou de gauche en France, qui en effet prennent appui sur les polémiques et les problématiques américaines pour tenter d'importer en France des débats similaires, qui voudraient laisser croire qu'il existerait en France un racisme systémique, pour reprendre le terme, un racisme d'État ou un racisme de la police, qui entraînerait évidemment des discriminations structurelle à l'égard des minorités. Moi, je n'adhère pas du tout à cette grille de lecture-là. Je considère que ce racisme systémique n'existe pas plus de la part de l'État que de la part de la police. S'il peut y avoir, au cas par cas, parfois des dérives ou des excès, comme partout, dans toutes les strates de la société, de toutes les civilisations du monde et de toutes les époques, évidemment que ça peut avoir lieu. Mais je trouve que ce procès est malvenu et je suis dérangée par la manière dont ces activistes procèdent, puisqu'on voit bien qu'ils cherchent la confrontation. On voit bien que, sur notamment l'affaire des manifestations sur les camps de migrants, à Paris, il y a eu une volonté, si vous voulez, de faire un coup politique, et derrière de pouvoir provoquer l'affrontement et ensuite de pouvoir provoquer un débat et donc faire reculer le gouvernement. Parce que, évidemment, la mécanique qui s'orchestre à chaque fois, c'est de dire on crée des provocations, on crée des violences, on fait des images et dans l'émotion, on fait réagir un gouvernement pour le faire reculer sur tel ou tel sujet.
Mais les violences policières, elles existent.
Elles peuvent exister, mais ça reste tout à fait marginal.
Ça vous choque d'entendre le président Macron parler de violences des deux policiers ?
Je trouve qu'il... C'est drôle d'ailleurs ce débat parce que d'une certaine manière ça paraîtrait tout à fait absurde qu'on puisse dire il n'y a aucune violence, jamais, ça n'arrive jamais dans le cadre des forces de l'ordre et dans le même temps dire évidemment il y a une violence systémique. On peut avoir quand même un discours je pense nuancé et dire que de manière générale la police est tout à fait exemplaire et qu'il peut avoir au cas par cas, ça peut arriver des excès, des dérives mais qui sont de toute façon poursuivis et punis parce que le débat sur l'IGPN qui est très intéressant qui a été lancé d'ailleurs par monsieur Darmanin.
La police des polices.
Voilà,
on parle dans la loi sécurité globale.
Exactement, avec derrière la fausse bonne idée de vouloir, d'une certaine manière, dissoudre l'IGPN et peut-être la transférer à une autorité indépendante, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Je veux dire, il faut quand même savoir que les policiers sont aujourd'hui le corps de la fonction publique qui est le plus poursuivi et sanctionné alors qu'ils ne représentent à peine un dixième de la fonction publique. Et c'est eux qui subissent la moitié des sanctions.
Mais cette loi sécurité globale, elle ne va pas à leur encontre du tout.
Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis sur ce point précisément de la question de l'IGPN, la fausse bonne idée qui consisterait à dire il ne faut pas que les policiers soient jugés par leur pair est une absurdité pour une raison simple, c'est que pour juger quelqu'un de manière pertinente, il faut connaître le métier, il faut connaître les armes qu'ils utilisent, il faut connaître le contexte, la pression que ça peut représenter. Donc il faut des gens qui maîtrisent, si vous voulez, toutes les implications de ce métier. C'est ça que je veux dire.
Marion Maréchal, plus aucune manifestation en France ne se déroule sans saccage, sans dégradation, avec des groupes, hein, les Black Blocs, qui utilisent des armes de guerre. Comment on fait pour éradiquer ces groupes ?
Bah écoutez, déjà peut-être faudrait-il chercher à les interpeller, parce que jusqu'alors...
Mais il n'y a pas que la France qui ne parvient pas à les interpeller.
D'accord, mais
la Belgique, l'Allemagne...
Pendant longtemps, il y a eu une forme de doctrine qui a prévalu dans le maintien de l'ordre, qui était un peu le syndrome Malek Oussekine, vous savez, qui voulait qu'on n'aille plus, que les forces de l'ordre et de maintien de l'ordre n'aillent plus au contact des manifestants, parce qu'ils craignaient évidemment que ce contact puisse entraîner des violences, voire des dommages collatéraux, voire peut-être des blessés graves, et évidemment aucun gouvernement ne veut se retrouver face à cela. Ce syndrome, on va dire, on en a un petit peu guéri, puisque sous Christophe Castaner, on est un petit peu revenu dessus, mais on n'est pas encore allé au bout du processus. Et la réalité, c'est que les forces de l'ordre, on le voit bien d'ailleurs dans les images, très souvent, lorsqu'il y a attaque, reculent et ne vont pas au contact. Donc on n'arrive pas à interpeller ces gens. Et de manière générale, d'ailleurs, quand ils sont interpellés, on peut s'étonner que les sanctions ne soient pas toujours au rendez-vous. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très concret. Je ramène ça à l'ICEP parce que c'est intéressant. On a été attaqué et dégradé à plusieurs reprises par des groupes antifa qui sont souvent collés à ça. Eh bien, ces groupes-là ont revendiqué l'attaque. Il n'y a eu aucune poursuite judiciaire. Bon, ça a de quoi interpeller quand même.
Ces manifs, il faut les interdire. Qui se déroule tous les week-ends ?
Non, mais il ne faut pas interdire. Le droit de manifester, c'est un droit fondamental. Si ces manifestations sont déclarées, elles doivent pouvoir avoir lieu. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut que l'encadrement, si vous voulez, puisse permettre aux forces de l'ordre de pouvoir interpeller ces gens et les poursuivre. On a le sentiment parfois, c'est un peu le sentiment que ça a donné au moment des Gilets jaunes, que le fait de... Au moment des Gilets jaunes, selon moi, le fait d'avoir laissé la casse se faire a permis de séparer en fait, la population des Gilets jaunes, de radicaliser le mouvement et donc de faire perdre à ces Gilets jaunes le soutien populaire. Il y a parfois un petit jeu de dupes, si vous voulez, entre le gouvernement et ses activistes, me semble-t-il.
Ce matin, c'est la loi sur le séparatisme islamiste qui est présentée en Conseil des ministres. Est-ce que cette loi est de nature à vous satisfaire, hein ? C'est la première fois qu'un texte est consacré au sujet de l'islamisme radical, de l'islamisme politique.
Bah, je ne vais pas vous donner une impression générale sur la loi parce qu'il y a des choses très très nombreuses dedans. Il y a des choses positives qui vont clarifier la situation. Par exemple, sur le fait qu'on va aujourd'hui permettre le refus systématique de l'octroi des titres de séjour lorsqu'il y a un fait de polygamie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans tous les cas, mais il faudra se heurter d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, donc bonne chance. Il y a des choses qui vont clarifier, qui vont fixer dans la loi une pratique jurisprudentielle par le fait de la neutralité, par exemple, des services publics qui sont assurés aujourd'hui par des personnes privées. Il y a des choses positives, me semble-t-il, sur la partie du contrôle des financements des associations par l'étranger, qui vont certainement permettre...
Et qu'est-ce qui vous paraît négatif,
voilà.
Et par exemple ?
Il y a, en revanche, pour moi, un certain nombre de choses qui sont à côté du sujet, notamment sur la question des écoles privées hors contrat ou de l'école à la maison, où là, le gouvernement, même s'il semble vouloir amender un peu sa proposition, a pris des décision absolument radicale jusqu'à l'interdiction quasi totale aujourd'hui de l'école à la maison, alors qu'on sait que 100% des terroristes sortent de l'école publique.
Mais peut-être vous voulez quoi, qu'on fasse du cas par cas ?
Non, ce que je voulais, c'est qu'en tout cas, on ne sacrifie pas les libertés de tous au prétexte de la lutte contre quelques-uns. Il faut quand même rappeler que la liberté d'enseignement est une liberté fondamentale et qu'à côté de cela, c'est probablement passé à côté du sujet. Alors que je le répète, 100% des terroristes qui ont frappé sur le sol français, pour ceux qui étaient français, sortent de l'école publique. Donc peut-être faudrait-il,
Qu'est-ce qu'il faut faire à l'école publique,
identifier peut-être davantage les profils à risque, savoir comment ils sont traités, former les professeurs pour permettre justement cette identification et ce traitement, voire ce signalement d'ailleurs aux forces de l'ordre. Bref, il y a à mon avis un travail à faire sur la question de l'école publique qu'on fera d'ailleurs nous au CAP pour apporter une réponse qui ne soit pas à côté, si vous voulez.
Est-ce que dans vos travaux, Marion Maréchal, vous pourriez évoquer le retour du service militaire, comme le propose Jean-Luc Mélenchon ?
Pourquoi pas ? C'est pas à l'ordre du jour, mais moi j'ai pas de difficulté sur le principe avec le retour du service militaire. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a tellement déconstruit notre appareil militaire qu'il n'y a plus aujourd'hui ni les hommes ni les infrastructures pour pouvoir encadrer un tel service. Donc il y a du boulot en amont.
Vous allez vous faire vacciner ?
Non, je ne pense pas. Pas
Pourquoi ?
Dans l'immédiat.
Parce vous êtes
que
méfiante ?
Je ne suis pas une personne à risque déjà. Manifestement, il n'y aura pas des doses suffisantes pour tout le monde.
Mais quand ce sera votre tour, si j'ose dire.
Par ailleurs, j'attends de voir déjà si au moment où le vaccin sortira, l'épidémie sera toujours existante. Parce qu'on dit ça comme si dans un an, l'épidémie sera toujours là. Or, à un moment donné, peut-être l'immunité collective va-t-elle jouer ? Et puis, j'attendrai aussi de savoir réellement ce qu'il en est de ces vaccins. Je pense qu'on a le droit aussi de laisser le temps prouver que ces vaccins sont efficaces et sûrs.
Marion Maréchal, vous avez créé une école, maintenant un centre de réflexion. Vous préparez à un retour en politique. Est-ce que, en tout cas, c'est comme ça qu'on prépare une candidature à la présidentielle?
Alors moi, je ne serai pas candidate à la présidentielle de 2022, je l'ai dit et redit.
Pas en 2022, en revanche, mais pour la prochaine.
Non, mais moi, que les choses soient claires, moi, je ne me suis jamais interdit de refaire de la politique. La seule chose que j'ai affirmée, c'est que je ne savais pas où, quand, et je voulais pas vous donner un âge, j'allais pas vous donner un agenda parce que je n'en ai pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je souhaite pouvoir, à travers le cap, revenir davantage dans le débat public parce que je trouve qu'il y a des sujets qui ne sont pas assez présents dans le débat public, ou en tout cas quand ils sont présents, qui ne sont pas forcément traités de manière satisfaisante. Et vu qu'il y a les présidentielles qui arrivent, c'est un moment de débat, c'est un moment d'émulation intellectuelle. Donc il me semble que c'est le moment opportun pour essayer de contribuer à ce niveau-là.
Et de votre côté, pas avec le Rassemblement national de votre tante Marine Le Pen?
Ah non, mais moi je ne suis pas au service dans le cadre du CAP d'un parti ou d'un candidat. C'est une démarche autonome qui travaille d'ailleurs avec des experts et des spécialistes de bords très différents. Et je pense que c'est une force parce que ça permet justement d'avoir un regard plus transversal, plus large et donc, je l'espère, plus efficace.
Merci beaucoup. Merci Marion Maréchal, qui n'exclut rien donc pour 2027.
Vous avez cité même la France de 2030 comme cap en début d'émission de votre laboratoire d'idées. Il n'y a pas en France de racisme systémique et cela est vrai aussi pour notre police, nous a dit notamment Marion Maréchal. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.